Le journal de Nancy Chapuis.
Bonjour, au moins 39 personnes ont perdu la vie hier soir dans le sud de l'Espagne. Deux trains à grande vitesse sont entrés en collision. Selon les premiers éléments, un des convois a déraillé et a provoqué l'accident. La prune ne s'était pas volatilisée. Depuis le début de l'année, 1150 rappels d'amendes liés au stationnement ont été envoyés par la police administrative de Moutiers. On peut remercier un nouveau logiciel qui permet de faciliter la récolte de données. Le BCB a clôturé sa phase préliminaire ce week-end. Le BC Boncourt figure à la dernière place de Ligue B de basketball. Un début de saison marqué par de nombreuses blessures et 3 victoires. Le sable du Sahara, tout comme quelques nuages d'altitude, pourrait venir voiler le ciel de la région cet après-midi. Demain au petit matin, le mercure sera négatif en toute région et devrait grimper jusqu'à 6 à 7 degrés au meilleur de la journée. Le bilan est lourd en Espagne après l'accident ferroviaire qui s'est produit hier soir dans le sud du pays, dans la province de Cordoue. Il fait désormais état d'au moins 39 morts et de plus de 120 blessés. Un train qui transportait 317 passagers et qui reliait Malaga à Madrid a déraillé vers 19h50. Il a alors envahi la voie opposée où circulait un autre train avec une centaine de personnes à bord. Les détails de notre correspondant en Espagne, Mathieu de Taillac.
C'est un train de la compagnie italo-espagnole Irio qui a déraillé le premier hier vers 19h50. Au moins deux de ses wagons ont ensuite envahi la voie opposée, percutant un train de la compagnie publique espagnole Renfe. Ce dernier voyageait en sens inverse de Madrid vers l'Andalousie et le choc a projeté deux de ses wagons dans un talus de 4 mètres. L'impact a été très violent. Les passagers interrogés par les médias espagnols témoignent d'une sensation de tremblement de terre. Pour l'heure, c'est l'incompréhension qui règne en Espagne. Le ministre des Transports, Oscar Puente, avouait tout ignorer des causes de la tragédie. L'accident est extrêmement étrange, a-t-il jugé, survenu sur une ligne droite et sur une infrastructure récemment rénovée. Le train lui-même avait à peine 4 ans, il avait subi une révision il y a seulement 4 jours. Le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, a atterri vers 9h30 à Cordoue pour se rendre sur le lieu de la catastrophe. Le roi Felipe VI et la reine Laetitia ont prévu de s'y rendre demain.
L'Europe annonce des mesures face au chantage de Donald Trump concernant les taxes douanières et le Groenland. Le ministre allemand de l'économie assure préparer des contre-mesures concertées. Il a évoqué le gel de l'accord douanier américano-européen ou encore l'entrée en vigueur de taxes sur des produits américains importés. Une 60aine de chefs d'État se retrouvent cette semaine à Davos. Le Forum économique mondial ouvre ses portes ce soir. La station Grisonne accueille notamment le Français Emmanuel Macron, l'Ukrainien Volodymyr Zelensky et l'Argentin Javier Milei. Mais la personnalité la plus attendue est le président américain. Donald Trump fera le déplacement avec une large délégation et devrait prendre la parole mercredi après-midi. Sa venue est un bon signal, estime la conseillère aux États du Parti du Centre, Isabelle Chasseau.
Oui, ça n'a pas de doute que c'est positif pour la Suisse. D'abord que le président américain qui se déplace et ne se déplace pas très souvent vienne effectivement à Davos. C'est une occasion unique pour le Conseil fédéral de le rencontrer. On sait les difficultés qu'il y a eu de pouvoir avoir un contact direct avec lui. C'est également l'occasion de replacer Davos et la Suisse avec Davos sur la carte mondiale et de replacer la diplomatie helvétique aussi sur la carte mondiale.
La sénatrice souligne que tout espace de dialogue est le bienvenu dans cette période de crise de multilatéralisme, mais elle ne s'attend pas à des avancées majeures avec les États-Unis. Un avis partagé par le conseiller national libéral radical Damien Côtier, qui observe avec inquiétude les décisions prises par Donald Trump depuis sa réélection. Damien Côtier.
Dans certains dossiers, il apporte aussi des éléments de solution. On a vu que sa pression sur le dossier de Gaza, sur le dossier de l'Ukraine, peut permettre des améliorations. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de dossiers, on l'a vu avec la Suisse, mais pas seulement. On le voit avec le Groenland, on le voit avec ce qui s'est passé au Venezuela, qu'il a aussi une manière de faire très brutale qui peut déstabiliser. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux dans un monde où il y a déjà des tensions. Donc il y a une grosse inquiétude. Après, on voit qu'il a aussi tendance à bousculer les choses et ensuite à les apaiser. C'est aussi sa technique de négociation. Donc il faut travailler, activer la diplomatie pour résoudre le plus possible ces tensions. Par exemple, la question Groenland soit résolue par une discussion diplomatique. Et si la Suisse peut aider, bien évidemment, tant mieux. C'est comme ça qu'il faut avancer. Il ne faut pas être ni optimiste ni pessimiste, il faut travailler.
Et quatre conseillers fédéraux feront le déplacement à Davos cette semaine, dont le président Guy Parmelin et le ministre des Affaires étrangères Ignacio Cassis. La bourse suisse a ouvert en nette baisse ce matin, dans le même mouvement que les autres places boursières européennes, en cause l'escalade des tensions autour du Groenland, justement avec la menace de nouveaux droits de douane américains. Dans ce contexte survolté, les valeurs refuges avaient la cote, comme les métaux précieux notamment. Et cet accident mortel lors d'un match de football de Super League, un supporter du FC Sion a chuté hier soir alors qu'il se trouvait dans le gradin nord du stade de Tourbillon. La police cantonale valaisanne précise que les premiers éléments de l'enquête permettent d'exclure l'intervention d'Antières. Une salve de rappel d'amende envoyée par la police administrative de Moutier. Depuis le début de l'année, le transfert de la cité prévotoise dans le canton du Jura, de nombreuses personnes ont reçu des rappels concernant le stationnement dont les faits peuvent remonter jusqu'à plusieurs années. Le dispositif policier de la prévôté rattrape un certain retard administratif grâce à l'utilisation d'un nouveau système informatique plus précis. Florian Wolfer.
Ce sont 1150 rappels d'amende d'ordre concernant les stationnements qui ont été envoyés par la police administrative de Moutier. Cette dernière s'est munie d'un nouveau logiciel depuis le transfert de la cité prévotoise dans le canton du Jura, selon son chef Roland Moritz. Ce système permet d'obtenir directement les coordonnées des détenteurs de véhicules ayant commis une infraction. Le service policier de la prévôté peut retracer les contraventions distribuées jusqu'à 5 ans en arrière. Il a toutefois décidé d'envoyer des rappels pour les amendes remontant à 3 ans maximum. Roland Moritz explique encore que les 3/4 des rappels sont envoyés hors des frontières suisses. Le nouveau système permet de récupérer les coordonnées des habitants des pays européens beaucoup plus facilement qu'auparavant.
La police administrative de Moutier précise encore que plusieurs personnes ont cru que ces rappels étaient des arnaques. Elle informe donc qu'ils doivent bel et bien être payés. Le canton du Jura perd le fondateur de son office de la culture. L'historien Bernard Pronguet est décédé ce week-end à l'âge de 91 ans, selon une information publiée ce matin sur la page Facebook du service. Arrivé en 1979 dans les locaux vides de l'hôtel des Halles à Porrentruy, la Joulot avait créé section après section l'office de la culture que l'on connaît aujourd'hui. Bernard Pronguet avait également donné des cours dans les universités de Fribourg et de Berne. Un projet sportif et solidaire en Laponie, c'est le défi que quatre régionales se sont lancées pour soutenir la Ligue jurassienne contre le cancer. Elles seront au départ du Laponie Trophy qui débutera ce vendredi. Ludivine Mercier et Stéphanie Beuchat composeront l'équipe Les Jurassiennes Givrées à dessin et Cynthia Esposito et Marion Lang composeront celle nommée Les Phénix Exploratrices. Au total, les épreuves dureront 3 jours. Les participantes s'affronteront lors d'une partie course et raquette de 15 km. Lors de la première journée, dans un relais 4 x 400 mètres de ski de fond durant la deuxième et au travers d'une course d'orientation de 19 km pour finir l'aventure. Stéphanie Beuchat revient sur les raisons qui les ont poussées à relever ce défi.
Cynthia et moi, on a aussi été malades, on a été touchés personnellement. Et c'était de se dire que finalement, on peut y arriver. Parce que quand on est au plus mal, on n'a pas forcément ça dans la tête. Et puis, c'était de se dire, chaque matin, on va se lever. Malgré les traitements, malgré les médicaments, malgré la fatigue, les douleurs, on va faire du sport parce que dans quelques mois, on va partir pour le raid. Et puis, on ne peut pas se permettre non plus d'arriver complètement down. Donc voilà, c'était notre motivation principale. Et puis après, c'était aussi de donner de l'espoir finalement aux autres personnes malades et puis de leur dire que à l'annonce d'un tel diagnostic, tout n'est pas terminé. Bien sûr, ça dépend toujours du degré, des choses comme ça, mais on peut avancer, on peut se fixer des objectifs aussi grands soient-ils, et puis un pas après l'autre pour réussir ce défi.
Et retrouvez l'entretien complet sur rfj.ch. Une biennoise brille à la Star Academy. Depuis le 18 octobre, Léa Doffet est comme coupée du monde dans son château français où elle est formée par des professionnels. C'est à travers un écran de télévision que sa famille suit ses exploits lors des émissions quotidiennes et des primes du samedi. Et depuis le début de l'aventure, ses proches se rassemblent chaque week-end dans un bar biennois pour la soutenir à distance. Ils suivent ses performances et vibrent au son de sa voix. Samedi passé, notre consoeur du journal du Jura, Maëva Plenès, a rejoint Jean-Luc et Loïc Doffet, le père et frère de Léa.
On est un peu au milieu de l'émission. On a vu pour l'instant Léa chanter avec Laura Pausini. Quelle est votre réaction après avoir vu ce duo,
Jean-Luc ?
C'était court, j'entends, mais oui, c'était beau. On était contents de l'entendre, contents de la voir. C'était magnifique, ouais.
Loïc ?
Qu'elle chante bien, c'est plus une nouveauté, mais c'est toujours bien de la voir aussi avec des grandes artistes comme Laura Pausini et vraiment être à la hauteur des deux filles qu'on lui pose là, pendant la Star Academy. Qu'elle relève avec brio.
À chaque fois, elle est capable de relever les défis.
Qu'est-ce que ça vous fait aussi d'être là, sur place, en famille, pour soutenir un peu la fille prodige ?
C'est sympa, l'ambiance est bonne. Après, je préfère encore voir à la télévision, avoir un bon son, une belle image, être tranquille. Mais autrement, oui, c'est sympathique d'avoir de la famille qui est là pour soutenir Léa, pour nous soutenir, pour participer.
Il y a pas mal d'ambiance.
Oui, il y a de l'ambiance. Ouais.
Je crois qu'il y a peut-être Léa qui chante, donc on va peut-être faire une pause. Oui, c'est peut-être allez. Important de la voir. C'est la même avec les gars et les filles. Voilà, du coup, maintenant, il y a eu la deuxième chanson de Léa, Hyper Sensible. Comment c'était, Jean-Luc ?
C'était beau, elle a bien chanté, c'était magnifique, bien aimé.
Elle est elle-même hyper sensible, du coup ça résonnait.
Oui, ça lui va bien, ça lui va bien. C'est une chanson qui lui va bien.
Loïc ?
J'ai aussi vraiment adoré, puis le duo avec Charles, l'ancien candidat, ça montre aussi où elle pourra éventuellement aller dans les années qui suivent. J'espère que ce sera elle une invitée de l'année prochaine.
Alors là, pour l'instant, il n'y a pas trop de pression parce que Léa a l'immunité, mais est-ce que vous avez un petit pronostic pour la suite de l'aventure ?
Pronostic, c'est difficile à faire parce que tous les candidats sont bons, ils ont tous leur chance d'arriver jusqu'en finale. Mais on espère que Léa aille le plus loin possible encore. On espère même qu'elle gagne la finale. Mais après, ça, c'est peut-être beaucoup demandé.
Moi, je suis toujours optimiste. Je dis qu'elle va passer les demi-finales. Et la finale, on verra, vu que c'est vraiment le public qui décide. C'est plus en termes de chant. Ils méritent tous d'être là où ils sont aujourd'hui. Bah, nous, on fera notre mieux, que ce soit avec les votes, la cagnotte, pour essayer de l'emmener le plus loin possible.
Et les propos recueillis par Maëva Plenès du Journal du Jura. À noter que le sort de la seule candidate suisse encore en lice dépend des SMS du public français. Une cagnotte a été lancée pour convertir les dons en votes.
Vous écoutez RFJ, il est 12h27.
RFJ, sport.
Louis Matt n'est plus l'entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds. Le club neuchâtelois de Swiss League de hockey sur glace a annoncé ce matin avoir démis de ses fonctions avec effet immédiat son technicien canado-suisse. Les récents mauvais résultats et l'état général de l'équipe ont convaincu le conseil d'administration de limoger Louis Matt pour insuffler un nouveau souffle en vue de la fin du championnat. L'actuel troisième de Swiss League avait déjà annoncé il y a plus de deux mois que le contrat de l'entraîneur ne serait de toute façon pas prolongé au terme de la saison. Le BC Boncourt peine toujours à décoller. Il figure à la dernière place du classement de Ligue B de basketball, alors que la phase préliminaire a été bouclée ce week-end. Une phase préliminaire qui s'est soldée par une défaite 68-53 contre Gold Coast Wallabies. Et pour parler de cette première partie de saison, le rendez-vous sport recevait les deux joueurs du BCB, Loïc Membré et son capitaine Benjamin Mass. Ce dernier tire le bilan de ce début de saison, Benjamin Mass.
La première partie de saison, elle a été assez compliquée. Et ceci est dû notamment à cause de nombreuses blessures. On avait rarement un effectif complet. Et à chaque fois, on devait ajuster. Et puis, il y avait plein de joueurs qui jouaient hors de leur poste. Et ouais, c'était ça la plus grande difficulté en soi.
Et depuis le début de saison, le BCB a gagné 3 matchs, soit le même nombre que sur toute la saison dernière. Un point positif, mais il ne faut pas en rester là pour la phase intermédiaire qui s'approche, selon le pivot Loïc Membré.
C'est encourageant. Nous, notre objectif, c'est vraiment de passer notre meilleur score de l'année passée rapidement, puis d'arriver en play-off cette année, puis d'essayer de vraiment de faire le max qu'on peut pour les play-offs. Puis voilà, c'est ce qu'on essaye d'atteindre actuellement. Justement, il nous faut gagner des matchs maintenant au deuxième tour, parce qu'on va tomber sur des équipes plus faibles. Donc il faut vraiment qu'on arrive à gagner 7 matchs sur 7 pour arriver en play-off, puis essayer de faire le max qu'on peut, puis essayer d'aller chercher le plus loin.
Et retrouvez l'entretien complet avec Loïc Membré et Benjamin Mass sur notre site internet. Victoire de Stan Wawrinka qui se qualifie pour le deuxième tour de l'Open d'Australie. Le Vaudois s'est offert un 159e succès en Grand Chelem ce matin à Melbourne. Le joueur de tennis a renversé le Serbe Laszlo Djere 5-7, 6-3, 6-4, 7-6. Dans le tableau féminin, moins de succès pour Simona Valtert. La Grisonne s'est inclinée au premier tour 6-3, 6-2 face à l'Américaine Amanda Anisimova. Un scénario incroyable pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le titre est revenu au Sénégal hier à Rabat. Les Lions de la Teranga ont battu le Maroc 1-0 après prolongation. Ils ont privé le pays hôte de soulever le trophée devant son public. Mais cette finale a connu un dénouement particulier, Séverine Boé.
Les dernières minutes du temps réglementaire de cette finale resteront gravées dans les mémoires. Dans la dernière minute du temps additionnel, l'arbitre a accordé un pénalty au Marocain, signalé par la VAR pour une faute sur le meilleur buteur du tournoi, Brahim Diaz. La délégation sénégalaise a longuement protesté, d'autant qu'on leur a refusé un but en début du temps additionnel pour une faute litigieuse. Certains joueurs ont quitté la pelouse avant que Sadio Mané ne les ramène sur le terrain. Près de 15 minutes après la décision du pénalty, Brahim Diaz a échoué en tentant une panenka dans les bras d'Edouard Mendy. Le but de la victoire sénégalaise a finalement été marqué par Pape Gueye à la 4e minute des prolongations.
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a condamné ce matin des scènes inacceptables lors de la finale de la CAN. Le Valaisan met en cause certains joueurs et une partie du staff du Sénégal qui ont quitté le terrain plusieurs minutes en plein match. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Bel après-midi.
RFJ Sport.